Une mort héroïque. Fanchiul était un admirable bouffon et presque un des amis du prince. Mais pour les personnes vouées par état au comique, les choses extérieures ont de fatales attractions et, bien qu'il puisse paraître bizarre que les idées de patrie et de liberté s'emparent despotiquement du cerveau d'un histrion, un jour, Fanchiul entra dans une conspiration formée par quelques gentilshommes mécontents. Il existe partout des hommes de bien pour dénoncer au pouvoir ces individus d'humeur atrabilaire qui veulent déposer les princes et opérer sans la consulter le déménagement d'une société. Les seigneurs en question furent arrêtés, ainsi que Fanchiul, et voués à une mort certaine. Je croirais volontiers que le prince fut presque fâché de trouver son comédien favori parmi les rebelles. Le prince n'était ni meilleur ni pire qu'un autre, mais une excessive sensibilité le rendait en beaucoup de cas plus cruel et plus despote que tous ses pareils. Amoureux passionné des beaux-arts, excellent connaisseur d'ailleurs, il était vraiment insatiable de volupté. Assez indifférent relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-même, il ne connaissait d'ennemis dangereux que l'ennui. Et les efforts bizarres qu'il faisait pour fuir ou pour vaincre ce tyran du monde lui auraient certainement attiré de la part d'un historien sévère l'épithète de monstre s'il avait été permis dans ces domaines d'écrire quoi que ce fût qui ne tendit pas uniquement au plaisir ou à l'étonnement qui est une des formes les plus délicates du plaisir. Le grand malheur de ce prince fut qu'il n'eut jamais un théâtre assez vaste pour son génie. Il y a de jeunes Nérons qui étouffent dans les limites trop étroites et dont les siècles à venir ignoreront toujours le nom et la bonne volonté. L'imprévoyante providence avait donné à celui-ci des facultés plus grandes que ses états. Tout d'un coup, le bruit courut que le souverain voulait faire grâce à tous les conjurés. Et l'origine de ce bruit fut l'annonce d'un grand spectacle où Fanchiul devait jouer l'un de ses principaux et de ses meilleurs rôles et auquel assisteraient même, disait-on, les gentilshommes condamnés. Signe évitant, ajoutaient les esprits superficiels, des tendances généreuses du prince offensé. De la part d'un homme aussi naturellement et volontairement excentrique, tout était possible, même la vertu, même la clémence, surtout s'il avait pu espérer y trouver des plaisirs inattendus. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade, il était infiniment plus probable que le prince voulait juger de la valeur des talents scéniques d'un homme condamné à mort. Il voulait profiter de l'occasion pour faire une expérience physiologique d'un intérêt capital et vérifier jusqu'à quel point les facultés habituelles d'un artiste pouvaient être altérées ou modifiées par la situation extraordinaire où il se trouvait. Au-delà, existait-il dans son âme une intention plus ou moins arrêtée de clémence? C'est un point qui n'a jamais pu être éclairci. Enfin, le grand jour arrivé, cette petite cour déploya toutes ses pompes, et il serait difficile de concevoir, à moins de l'avoir vu, tout ce que la classe privilégiée d'un petit état à ressources restreintes peut montrer de splendeur pour une vraie solennité. Celle-là était doublement vraie, d'abord par la magie du luxe étalé, ensuite par l'intérêt moral et mystérieux qui y était attaché. Le sieur Fanchiul excellait surtout dans les rôles muets ou peu chargés de paroles, qui sont souvent les principaux dans ces drames féeriques dont l'objet est de représenter symboliquement le mystère de la vie. Il entra en scène légèrement et avec une aisance parfaite, ce qui contribua à fortifier dans le noble public l'idée de douceur et de pardon. Quand on dit d'un comédien « voilà un bon comédien », on se sert d'une formule qui implique que sous le personnage se laisse encore deviner le comédien, c'est-à-dire l'art, l'effort, la volonté. Or, si un comédien arrivait à être, relativement au personnage qu'il est chargé d'exprimer, ce que les meilleures statues de l'Antiquité, miraculeusement animées, vivantes, marchantes, voyantes, seraient relativement à l'idée générale et confuse de beauté, ce serait là sans doute un cas singulier et tout à fait imprévu. Fanciul fut ce soir-là une parfaite idéalisation qu'il était impossible de ne pas supposer vivante, possible, réelle. Ce bouffon allait, venait, riait, pleurait, se convulsait avec une indestructible auréole autour de la tête. Auréole invisible pour tous, mais visible pour moi, et où se mêlaient dans un étrange amalgame les rayons de l'art et la gloire du martyr. Fanciul introduisait, par je ne sais quelle grâce spéciale, le divin et le surnaturel, jusque dans les plus extravagantes bouffonneries. Ma plume tremble, et des larmes d'une émotion toujours présente me montent aux yeux, pendant que je cherche à vous décrire cette inoubliable soirée. Fanciul me prouvait, d'une manière péremptoire, irréfutable, que l'ivresse de l'art est plus apte que tout autre à voiler les terreurs du gouffre, que le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui l'empêche de voir la tombe, perdu comme il est dans un paradis, excluant toute idée de tombe et de destruction. Tout ce public, si blasé et frivole qu'il pût être, subit bientôt la toute-puissante domination de l'artiste. Personne ne rêva plus de mort, de deuil ni de supplice. Chacun s'abandonna sans inquiétude aux voluptés multipliées que donne la vue d'un chef-d'œuvre d'art vivant. Les explosions de la joie et de l'admiration ébranlèrent à plusieurs reprises les voûtes de l'édifice avec l'énergie d'un tonnerre continu, le prince lui-même, enivré, mêla ses applaudissements à ceux de sa cour. Cependant, pour un œil clairvoyant, son ivresse à lui n'était pas sans mélange. Se sentait-il vaincu dans son pouvoir de despote ? Humilié dans son art de terrifier les cœurs et d'engourdir les esprits, frustré de ses espérances et bafoué dans ses prévisions. De telles suppositions, non exactement justifiées, mais non absolument injustifiables, traversèrent mon esprit pendant que je contemplais le visage du prince, sur lequel une pâleur soudaine s'ajoutait sans cesse à sa pâleur habituelle, comme la neige s'ajoute à la neige. Ses lèvres se resserraient de plus en plus et ses yeux s'éclairaient d'un feu intérieur semblable à celui de la jalousie et de la rancune. Même pendant qu'il applaudissait ostensiblement les talents de son vieil ami, l'étrange bouffon qui bougonnait si bien la mort. À un certain moment, je vis son Altesse se pencher vers un petit page placé derrière elle et lui parler à l'oreille. La physionomie espiègle du joli enfant s'illumina d'un sourire, et puis il quitta vivement la loge princière, comme pour s'acquitter d'une commission urgente. Quelques minutes plus tard, un coup de sifflet aigu, prolongé, interrompit Fanciul dans un de ses meilleurs moments, et déchira à la fois les oreilles et les cœurs, et de l'endroit de la salle, d'où avait jailli cette désapprobation inattendue, un enfant se précipitait dans un corridor avec des rires étouffés. Fanciul, secoué, réveillé dans son rêve, ferma d'abord les yeux, puis les rouvrit presque aussitôt, démesurément agrandis, ouvrit ensuite la bouche comme pour respirer convulsivement, chancela un peu en avant, un peu en arrière, et puis tomba roide mort sur les planches. Le sifflet, rapide comme un glaive, avait-il réellement frustré le bourreau? Le prince avait-il lui-même deviné toute l'homicide efficacité de sa ruse? Il est permis d'en douter. Regretta-t-il son cher et inimitable Fanchioul? Il est doux et légitime de le croire. Les gentilshommes coupables avaient joui pour la dernière fois du spectacle de la comédie. Dans la même nuit, ils furent effacés de la vie. Depuis lors, plusieurs mimes, justement appréciés dans différents pays, sont venus jouer devant la cour de... Mais aucun d'eux n'a pu rappeler les merveilleux talents de Fanchioul, ni s'élever jusqu'à la même faveur.